Les rendez-vous de l'UNIS. En partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drieux-Combalusier. En direct du pavillon Dauphine sur Radio Imo.
Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. Nous sommes toujours ici en direct au pavillon Dauphine pour les rencontres de l'UNIS, les rendez-vous de l'UNIS, UNIS Île-de-France, Union des syndicats de l'immobilier. Sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Bournazel. Bonjour Pierre-Yves Bournazel.
Bonjour.
Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes député de la 18e circonscription de Paris et vous êtes en outre aussi conseiller de Paris. Vous avez d'ailleurs fondé un mouvement il n'y a pas si longtemps, hein, me semble-t-il, au sein de l'UDI, me semble-t-il aussi.
Non, pas l'UDI. On a fondé le mouvement Agir sur le plan national et un groupe au conseil de Paris indépendant.
Voilà, un groupe. Alors, vous allez nous en parler. Hein, je veux bien qu'on en parle un peu. Bon, la réflexion se fait assez bien après cette table ronde qui a duré plus d'une heure et demie avec beaucoup de questions qui ont été posées, animées de main de maître par Henri Buzicazo.
Bonsoir Sylvain.
Comment ça va Henri ?
On est pleine forme et je suis toujours très, très heureux quand un débat s'est bien passé, qu'il a été riche. J'ai l'impression, c'était le risque, qu'on oublie des thèmes majeurs et que ça n'a pas été le cas. Parce que les débatteurs ont des convictions et qu'ils n'ont pas manqué d'en faire part sur l'essentiel des grands sujets. On a parlé de construction, on a parlé de logement social, on a parlé de mobilisation du parc existant, de transition environnementale, évidemment, des problèmes que ça peut poser aux propriétaires. On a parlé d'encadrement des loyers, très, très largement, mais sur des sujets beaucoup plus fondamentaux qui impactent Paris. Et grâce notamment à Pierre Bournazel, on a aussi parlé de gouvernance de Paris, du Grand Paris, du millefeuille administratif. On a parlé de la situation économique des collectivités locales et de Paris par priorité, l'endettement de Paris, les conséquences en matière de fiscalité. Voilà. Alors, il y avait largement de quoi débattre pendant une heure et demie avec des divergences. C'était pas évident, en particulier entre David Alphand et Pierre-Yves Bournazel, bon, qui sont proches par sensibilité. Il y avait des différences. Et puis, en représentant des salariés d'une grande centrale syndicale, la CFDT, qui a marqué aussi ces différences ou ces points d'accord sur un certain nombre de sujets. Ça fait plaisir. Voilà.
Monsieur le député, dans ce cadre-là, alors je vais vous demander un petit peu quel a été votre ressenti après cette table ronde qui a duré quand même assez longtemps. Il y a pas mal de questions qui ont été posées. Mais je vais m'adresser aux politiques que vous êtes et je vais même essayer d'aller un peu plus loin. En lisant un petit peu votre parcours, le premier sujet qui m'est venu à l'esprit en disant est-ce que je pourrais définir la trajectoire de Pierre-Yves Bournazel. Je rappelle que vous êtes né en 1977, donc vous êtes tout jeune politique. J'allais dire pas électron libre, mais homme libre dans la pensée. Et votre trajectoire, elle est très indépendante. Elle a quelque chose de très indépendante. Vous savez qu'on est là pour le logement. Je sais que c'est une question qui vous tient à cœur. Quand vous faites ce regard justement politique avec toutes les difficultés que rencontre Paris pour mener ce projet du Grand Paris, quelle réaction vous avez? Comment vous le ressentez? Ça ne va pas être évident en ce moment.
Écoutez, moi j'ai toujours cultivé, c'est vrai, une liberté de temps et une indépendance d'esprit, donc ça me vaut à la fois des soutiens et des inimitiés.
Ça fait moins compliqué.
Mais voilà, je considère que ce qui importe, c'est le service de son pays, le service de sa ville, le service de son arrondissement. Et pour moi, une idée est bonne ou elle ne l'est pas. Et si elle est bonne, elle doit produire des résultats. Alors au fond, moi je viens plutôt d'une droite modérée, j'étais porte-parole d'Alain Juppé pendant la campagne des primaires. Je crois beaucoup à la rationalité dans le débat public, à l'ère de la désinformation. Je crois au temps long, là où on est dans le monde de l'instantanéité. Je crois qu'on ne peut pas avoir raison seul contre les autres, qu'il faut savoir travailler avec des partenaires, le partenaire privé, mais aussi entre partenaires institutionnels. Je ne supporte pas les conflits permanents entre l'État, la région, la ville de Paris, etc. Je crois que peu importe les étiquettes politiques, quand on a été élu, c'est pour faire. Et c'est pour faire avec les autres, si on veut que les dossiers avancent. Et donc, c'est pour ça que je garde cette liberté de ton.
Et la question, je voudrais qu'on revienne sur la question du Grand Paris. Le Grand Paris, même si on peut analyser le fait que ça se fait finalement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Pourquoi c'est si complexe de mener un projet à bien? Pourquoi il y a toujours cette nécessité bien française d'empiler les institutions entre la MGP, la région, Paris, qui est une enclave aussi, mais qui est aussi, avec l'Île-de-France, c'est un cinquième de notre population. Donc c'est le miroir de notre société. Pourquoi, vous, qui êtes conseiller de Paris, député, c'est si difficile pourquoi ce sens pragmatique qui vous anime, et c'est vrai que votre parcours l'a démontré, voilà, on n'essaye pas de... Alors, bon, je vais peut-être dire une connerie, mais pourquoi on ne fusionne pas ces institutions? Pourquoi on ne crée pas un seul et unique véhicule qui porte ce grand projet nécessaire pour notre pays?
Je vous donne parfaitement raison, puisque c'est ma proposition depuis de nombreuses années. Je l'ai dit, je l'ai même écrit dans mon livre, Au revoir Paris,
oui,
il y a 2 ans et demi. Il faut mettre fin aux égoïsmes territoriaux qui consistent à dire j'ai le pouvoir et je ne souhaite pas le partager. La région d'un côté, la métropole de l'autre, les établissements publics territoriaux, les départements, les communes, les intercommunalités. C'est illisible
une
pour
force
le citoyen.
D'inertie terrible.
Oui. Parfaitement. C'est illisible pour les citoyens, c'est de l'inertie, donc de l'inefficacité. Et pour les investisseurs, où est la porte d'entrée? Donc on a besoin de simplification. La simplification, c'est qu'il faut un interlocuteur, évidemment, à l'échelle du Grand Paris, sur les grandes questions d'attractivité économique, de cohérence en matière de logement et d'urbanisme, parce qu'il faut quand même une cohérence, en matière de circulation, en matière de déplacement, en matière de transport en commun, et en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, sur ces grands sujets, il faut une entité qui puisse décider et mettre en œuvre et produire là des résultats. On le voit aujourd'hui, malheureusement, cet enchevêtrement fait en sorte qu'on n'avance pas sur des sujets qui mériteraient de l'être. Et la dernière fois qu'on a avancé sur le Grand Paris, c'était dans le mandat de Nicolas Sarkozy, lorsque Nicolas Sarkozy a pu faire émerger le Grand Paris Express. Il a commencé par les déplacements. On y est d'ailleurs encore. Il y a beaucoup de choses qui doivent encore sortir de terre dans les années qui viennent, qui vont permettre de décloisonner les territoires, de les relier les uns aux autres. C'est important. Mais il faut passer une étape supplémentaire pour avancer sur les grands sujets à l'heure de la ville-monde, à l'heure de la compétition avec les grandes métropoles internationales. Il faut quand même qu'on ait une efficacité politique et administrative. Et donc, il faut une réforme profonde que j'appelle de mes voeux. Et j'ai mis des propositions sur la table.
Il faut le souhaiter. Il faut le souhaiter, Henri Buzet-Cazon, on est d'accord, puisque tout ça est bien sûr lié au premier marqueur social. Il y a presque une vision maslonienne, vous savez, le logement est le premier marqueur social, vous le savez. Vous savez, les deux postes sur lesquels on décroche pour sombrer parfois dans la pauvreté, et Dieu sait que dans le pays, en ce moment, c'est pas drôle, c'est l'énergie et le loyer. Et le premier poste qui permet de décrocher, d'ailleurs il y a un excellent rapport qui a été rédigé par Nicolas Desmoulins, en janvier 2021, vous savez, sur les expulsions, elles ont, qu'on le dise clairement, explosé. Elles ont explosé, Henri Buzet-Cazon, parce que, encore une fois, on a des régions qui construisent à moitié moins, on a des permis de construire qui ne sont pas instruits, on a, malgré la densité, une difficulté à proposer une offre de logement à ceux qui en ont besoin. Est-ce que ça voudrait pas dire que quelque part, comme l'avait proposé en son temps, en 2002, rappelez-vous, Lionel Jospin, en disant un droit universel au logement, est-ce qu'à un moment donné, à Paris, qui est la ville la plus concentrée, avec l'Île-de-France, une des villes les plus concentrées, je rappelle que c'est combien, c'est 8 départements, c'est 1/5 de la population française, c'est juste énorme, Henri.
Oui, mais moi je retiens ce qu'a dit d'entrée de jeu Pierre-Yves Bournazel, parce que je trouve ça très courageux.
Ils ne sont pas nombreux à le penser.
Tous les candidats, depuis tant d'élections, tous les candidats à la mairie de Paris, candidates aussi, il est de bon ton de dire vous voulez habiter Paris, on va vous trouver la solution. Moi, j'entends que la solution aujourd'hui, elle est évidemment dans le Grand Paris, qui a pris du retard. David Alphand a montré du doigt le retard. Alors après, il a pu l'attribuer au président de la République, et Pierre-Yves Bournazel a pu nuancer ce propos, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on a pris du retard et que le Grand Paris constitue un espoir pour dire à des ménages, vous allez pouvoir profiter de Paris, mais vous allez mieux vivre ailleurs, et à des prix 3 fois moins importants, avec une qualité de vie qui a disparu très largement à Paris. Mais je trouve bien de dire toutes les solutions ne seront pas trouvées dans Paris. Mais Paris, c'est aussi ce qu'a dit David Alphand, autre débatteur, doit apporter sa forte contribution et ne doit pas démissionner sur le logement. Ça, c'est très clair.
Alors, Pierre-Yves Bournazel, soyons pragmatiques. Y a-t-il un espoir pour redéployer une politique du logement foncière, j'ai bien dit foncière, même dans Paris où le foncier est rare, par la surélévation des copropriétés, par la transformation des bureaux en logements, est-ce que c'est un vœu pieux ou pas? Il y a eu, comme vous le savez, rue Planchat, vous y étiez, il me semble, au 44 rue Planchat, lorsqu'il y a eu cette transformation qui a été faite de bureaux en logements. Il me semble que c'est la société Novaxia, me semble-t-il, qui avait transformé cela. Il y a eu cette expérience incroyable du BRS, vous savez. Est-ce que vous saviez que le BRS, c'est 23 logements et il y a eu, je crois, 2784 familles qui ont postulé.
Cette opération a été citée pendant le débat.
Au dossier. 2784 familles, si on prend le nombre de personnes rapportées, ça fait presque pratiquement 9000 personnes. Pour 23 logements.
Avec des prix divisés par deux par rapport
avec des prix divisés par deux. Il faut des alternatives pour loger les Français. L'homme politique que vous êtes, je sais que vous l'avez à cœur. Est-ce que ça passera par un choc normatif considérablement allégé, malgré les promesses qu'avait fait Emmanuel Macron en début de mandature et comment, un jour, on va régler ce problème? Ne craignez-vous pas, vous, l'homme politique que vous êtes, à un moment donné, une cristallisation sociale autour des problèmes de logement, comme ça a été le cas pour le carburant? Voilà. Verra-t-on un jour les gilets jaunes du logement?
Bon, je pense que...
Je caricature un peu, mais volontairement.
Sur le plan national, probablement encore beaucoup de choses à assouplir pour plus d'efficacité et de pragmatisme dans les décisions publiques et dans le partenariat public-privé. On l'a dit dans le débat, Paris, le Grand Paris, c'est autre chose. Parce que, évidemment, c'est Grand Paris, c'est la ville-monde. Avec... des sujets, des problématiques assez différentes de celles d'autres métropoles françaises, mais surtout du reste du territoire français. Donc il faut aussi qu'on adapte intelligemment notre stratégie.
Tout à fait d'accord.
Donc je le disais tout à l'heure, premier point, c'est qu'il faut penser la politique du logement au travers de la politique de déplacement, d'attractivité économique à l'échelle du Grand Paris. Si on a déjà cette simplification, on aura de meilleurs résultats pour faire. Faire, c'est-à-dire collectivité avec le partenaire privé et notamment, évidemment, les promoteurs. Est-ce que Paris doit y participer? Bien sûr, et je l'ai dit tout à l'heure, Paris doit y participer. Mais Paris, c'est 105 km². C'est une toute petite ville en termes de superficie.
Ben oui, bien sûr.
87, si on retire le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Ce qui veut dire que, en termes de superficie à l'intérieur du Grand Paris, c'est tout petit. Donc, si on ouvre Paris sur le Grand Paris, on va résoudre beaucoup de problèmes. Et à l'intérieur de Paris... Mettons fin, c'est en tout cas ma proposition, à la logique qui est mise en place par la municipalité actuelle, qui est plutôt une logique de chiffres. On va faire tant de logements et tant de logements sociaux. Moi, je suis plutôt pour qu'on privilégie la qualité. La qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne cherchons pas à hyperdensifier Paris, le cœur hein, de ces 105 km², puisque Paris est la capitale la plus dense d'Europe, une des villes les plus denses au monde. On a une densité comme Mumbai. Cherchons plutôt à voir ce que l'on peut faire pour, par exemple, rehausser des dents creuses. Par exemple, transformer des bureaux usagés...
En logement.
En logement. Voilà. Et surtout, mettons de l'équilibre, de recherche de la qualité. Bien sûr qu'il faut du logement social pour les plus précaires, mais il nous faut aussi du logement pour les classes moyennes, celles et ceux qui travaillent, qui ne trouvent pas dans le privé et qui ont besoin d'une proposition...
Ce qu'on appelle le logement intermédiaire.
Exactement. Hein. Ouais, et on a besoin aussi de logements privés. Parce que le logement privé, ça permet de participer au financement des projets, mais ça permet aussi d'attirer des gens qui, là, sont plutôt des cadres supérieurs, au vu du prix du marché aujourd'hui à Paris. Mais ça permet aussi de jouer sur la politique de long terme. Car plus on retire de logements privés à Paris, plus on participe de la spéculation immobilière en raréfiant le privé. Et par exemple, moi, je suis contre la politique de préemption de la ville de Paris, sauf sur l'insalubrité, bien sûr, que lorsqu'il y a des immeubles insalubres, il faut préempter... rénover et remettre à disposition des citoyens ces logements. Mais quand c'est dans le diffus ou avec l'argent du contribuable, j'achète un logement qui se vend, je ne crée pas un nouveau logement, je change simplement la destination du logement, je transforme le logement privé à logement social. Mais ce n'est pas une politique qui va pouvoir durablement amener des résultats. Donc si on veut déconcentrer les problèmes des demandeurs de logement, que ce soit des demandeurs de logements sociaux d'accès à la propriété. Et il faut penser, encore une fois, Grand Paris, parce qu'à l'échelle du Grand Paris, on va résoudre beaucoup de problèmes de celles et ceux qui vivent aujourd'hui à Paris ou dans le Grand Paris, ou celles et ceux qui vont vouloir venir y vivre et y travailler. Parce que près des gares du Grand Paris Express, on peut faire des beaux aménagements, des aménagements qui vont dessiner la ville-monde du XXIe siècle. On peut faire de la qualité architecturale, on peut faire de la qualité écologique, on peut faire beaucoup de logements liés au déplacement au métro, est lié à l'activité économique qui doit être aussi placée dans le cadre de ces gares du Grand Paris Express.
Et ça passera d'ailleurs par plusieurs centralités, on a qui appelle ça les polycentralités, qui permettra d'avoir des bassins de vie. Tout ça dans l'unité du Grand Paris, c'est une très bonne chose.
Je dis devant Pierre-Yves Bournazel que les JO 2024 constituent un espoir. Il en est un grand spécialiste, il aura beaucoup travaillé quand il était à la région en particulier.
Et voilà. Je me permettrai, si vous voulez bien, Pierre-Yves Bournazel, de vous réinviter dans nos studios à Paris, rue Réaumur.
Avec plaisir.
Pour développer un peu plus de temps, parce que je sais que votre temps est compté, c'est pour ça que je vais vous laisser aller pour développer. Je pense que de toute façon, vu le sujet, on sera toujours inépuisable là-dessus pour parler de cette thématique essentielle pour tout le monde, le logement des Français et particulièrement ceux des Franciliens. Merci Pierre-Yves Bournazel. Je rappelle que vous êtes député de la 18e circonscription de Paris et conseiller de Paris. Je vous dis à très vite et merci Henri Musicazo. Vous restez avec nous sur le plateau.
Les rendez-vous de l'UNIS, en partenariat avec l'UNIS Grand Paris, TK Elevator et Drieux Combalusier, en direct du pavillon Dauphine sur Radio Immo.